Il y a une enquête de l'INSEE qui a été réalisée en 2006 qui a révélé, donc en 2006, c'était il y a 7 ans, que plus de 60% des parents en France, à cette époque-là, c'est certainement plus aujourd'hui, 60% des parents en France ne sont pas mariés au moment de la naissance de leur premier enfant. Une autre enquête montre que 72% des Français de moins de 30 ans qui vivent en couple ne sont pas mariés. 72% des Français de moins de 30 ans qui vivent en couple ne sont pas mariés. C'est dire que le concubinage, comme on l'appelle aujourd'hui, est une pratique tout à fait courante et acceptable aujourd'hui dans notre société. Et dans les églises aussi, il n'est pas rare de rencontrer des couples croyants, du moins qui ont l'air de croyants, qui se sont installés ensemble et qui vivent ensemble ainsi pendant plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, avant de passer devant le maire, et puis là, d'y officialiser une bonne fois pour toutes leur union, par un mariage. Et pourquoi pas, me direz-vous? Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui aurait objecté si deux adultes fidèles et consentants de sexe opposé qui s'aiment, décidaient d'un commun accord, de consommer leur relation amoureuse en ayant notamment des relations sexuelles et en s'installant ensemble sous le même toit avant d'être mariés? Qu'est-ce qui aurait objecté, franchement? Alors évidemment, je vous apprends rien, surtout si vous étiez avec nous cet après-midi, je vous apprends rien si je vous dis que la Bible a beaucoup de choses à dire au sujet des relations amoureuses, au sujet du mariage et de la sexualité. Et pourquoi? Eh bien, pour une simple et bonne raison, c'est que la relation conjugale est une invention de Dieu. Eh oui, la relation conjugale est une invention de Dieu, donc Dieu nous en parle, c'est logique, il nous en parle dans sa révélation qui est la Sainte Bible. Mais le problème pour nous, Français, Européens, Américains et terriens du 21e siècle, c'est que le discours de la Bible sur ce sujet, comme sur d'autres, est loin d'être politiquement correct. Et comme pour d'autres enseignements, il prend nos contemporains un peu à rebrousse-poil, cet enseignement. Il va à contre-courant de la pensée dominante que l'on trouve et que l'on entend et que l'on voit autour de nous par les divers médias qui existent, ne serait-ce que auprès de nos amis. Qu'est-ce qui doit conditionner, en fait, nos opinions sur ces divers sujets et par conséquent nos choix? Est-ce que c'est le discours et la pression de nos amis ou des médias? Est-ce que ce sont nos désirs, nos sentiments, voire nos besoins qui doivent conditionner nos opinions et par conséquent nos choix? Ou bien, ne vaudrait-il pas mieux que ce soit la sagesse et les instructions infaillibles de celui qui nous a inventés, notre concepteur et créateur, le Dieu Tout-Puissant? Alors, comme vous allez voir, on va lire le texte dans un petit instant. Vous allez peut-être pas le voir parce qu'on va pas tout lire, mais il faut le savoir. Ce texte qu'on va lire s'inscrit dans une lettre que Paul adresse à des chrétiens en réponse à une lettre qu'il a reçue de leur part, mais que nous n'avons pas. Et donc, dans sa lettre adressée à ces chrétiens de la ville de Corinthe, l'apôtre Paul est en train de répondre à des questions précises qui lui ont été posées. Et une de ces questions posées par les chrétiens de Corinthe, de l'église réformée évangélique de Corinthe, une de ces questions portait sur le mariage. Certains membres de l'Église à cette époque-là pensaient que, justement, entre des adultes consentants, en gros, on peut bien faire ce qu'on veut entre des adultes consentants. Et puis d'autres membres de l'Église, quant à eux, étaient plutôt choqués par cette idée. Et pour eux, du coup, à l'inverse, ils pensaient que la seule chose qui était convenable pour un chrétien, c'était bien au contraire de rester célibataire et chaste toute sa vie. Ça, c'est la vocation la meilleure, la vocation suprême pour un chrétien. Alors pour l'apôtre Paul, ça va être l'occasion justement, cette question va être l'occasion pour lui de préciser quelques principes concernant les relations conjugales selon Dieu. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'à travers sa réponse, non seulement la Bible présente des objections à ce qu'on appelle aujourd'hui le concubinage et nous en donne les raisons, mais en plus la Bible nous explique que Dieu a un bien meilleur plan que cela pour nos relations conjugales. Alors on lit le texte, d'accord? C'est 1 Corinthiens chapitre 7, et on va lire les versets 1 à 9. Et sans faire exprès, je viens d'arracher la page de ma Bible, voilà, il faudrait que je pense à la rescotcher. Je je pourrais dire comme ça, si vous voulez. Alors, voilà ce qu'il dit. « Passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre. » Si ce n'est momentanément, d'un commun accord afin d'avoir du temps pour la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente, par votre incontinence. Et je dis cela comme une concession, non comme un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés, et aux veuves, je leur dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Prions. Notre Dieu, nous reconnaissons que toute ta parole est inspirée par toi, elle est utile pour notre édification. Nous reconnaissons aussi que toute ta parole est pertinente pour notre vie, et notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Permets que la vérité de ta parole, eh bien, pénètre au plus profond de nous-mêmes. Afin que nous soyons convaincus de sa véracité et de combien il est important qu'elle s'applique à notre vie, à chacun. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Alors la première chose que fait Paul dans ce passage, hein, versets 1 et 2 et 3, c'est qu'il établit un principe de base qui concerne les relations conjugales. Ce principe, c'est le suivant, c'est que la sexualité est exclusivement réservée au mariage. Alors, c'est sûr que j'ai peut-être un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes ce soir, mais il faut quand même qu'on voit que cette idée est ancrée dans l'Écriture sainte. La sexualité est exclusivement réservée au mariage d'après la Bible, et c'est ce que Paul nous rappelle dans les premiers versets. Et il va répéter ce principe à la fin du passage, au verset 9, là où, qu'on a lu, lorsqu'il dit au sujet des célibataires que s'il leur est trop difficile de rester chaste, eh bien, ils doivent se marier. Autrement dit, pour Paul, il n'y a que dans le mariage, entre un époux et une épouse, que des relations sexuelles peuvent avoir lieu. Et d'ailleurs, cette dimension de la relation conjugale, pour Paul, c'est pas juste optionnel. Vous vous mariez, et puis si vous avez envie, vous pouvez avoir des relations sexuelles. Mais c'est une option, c'est un bonus qu'on vient ajouter par-dessus. Non, c'est pas du tout la vie de Paul. Il dit que c'est un devoir conjugal, au verset 3. Vous avez vu ? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. De même, la femme à son mari. Juste après, il ajoute que la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Il parle donc de l'intimité physique. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. C'est un devoir conjugal. Ma sexualité, je la dois à mon épouse ou à mon épouse si vous êtes une femme. Imaginez que je doive 1000 euros à une personne. Imaginez que je doive 1000 euros à une personne. C'est une somme importante. Et je n'ai pas les moyens de lui rembourser ces 1000 euros. Et je lui demande par conséquent d'attendre la fin du mois, que je sois payé, que je reçoive mon salaire, pour qu'ensuite j'ai les moyens de lui rembourser. Je lui dis, t'inquiète pas, on attend le 31, je serai payé, mon compte sera approvisionné, j'aurai les 1000 euros, à ce moment-là, je te les donnerai. Arrive la fin du mois, arrive ma paye, qui fait plus de 1000 euros, heureusement, et voilà que je me retrouve avec l'argent qu'il faut pour rembourser mon créditeur. Mais là, imaginez, je reçois cet argent sur mon compte en banque, le 31 du mois. Imaginez que le premier du mois suivant, je décide d'utiliser ces 1000 euros, non pas pour les rendre à mon créditeur, mais pour faire une petite croisière sur la Méditerranée. Est-ce que ce serait un usage légitime de cet argent ? Ben non, pas du tout. Parce que cet argent, bien qu'il ait été crédité sur mon compte, ne m'appartient pas. Il appartient à mon créditeur et je suis tenu de lui rembourser. C'est pas vrai ? De la même façon, Dieu nous a quelque part crédité d'un capital, un capital érotique, un capital amour et sexualité, si j'ose dire. Et l'apôtre Paul nous dit dans ce texte que ce capital qui nous a été crédité, qui est sur notre compte, ne nous appartient pas. Nous le devons à notre époux ou épouse légitime et peut-être future. Le problème de beaucoup de gens aujourd'hui, et la tentation pour chacun de nous, hein, c'est de dépenser ce capital érotique et avec des gens qui ne sont pas notre époux ou épouse légitime. C'est ce qu'on a envie de faire, et c'est très tentant, comme le fait d'avoir 1 000 euros et de partir en croisière sur la Méditerranée, parce qu'on se dit on a bien besoin de vacances, ça nous ferait du bien. Et bien sûr, le concubinage, comme on appelle ça aujourd'hui, le fait d'habiter ensemble, de consommer une relation sans être marié, entre dans cette catégorie de dépenses illégitimes du capital amour et sexualité que Dieu nous a confié. Même si vous êtes avec un partenaire qui est destiné à devenir votre époux ou épouse légitime, peut-être que vous avez une relation stable depuis plusieurs années, peut-être que vous êtes même fiancé, si vous n'êtes pas passé devant le maire, si vous n'avez pas signé les papiers, cette personne n'est pas encore, en tout cas, votre époux ou épouse légitime. Elle ne le sera pas avant le jour du mariage. Ce qui signifie que tant que ce jour n'arrive pas, vous n'êtes pas encore en situation légitime de dépenser ce capital que Dieu vous a remis. Et en fait, en le dépensant avant l'heure, ou avec la meilleure avec la mauvaise personne, vous êtes en train de faillir à votre devoir vis-à-vis de votre futur époux ou épouse. Et donc le premier principe que Paul souligne ici, en abordant cette question de la sexualité, du mariage, du célibat, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le mariage constitue le cadre exclusif des relations conjugales. Si aujourd'hui vous n'êtes pas marié et que vous souhaitez mettre en pratique ce principe, la solution est simple. Elle est simple à formuler. Vous devez préserver votre sexualité. Vous devez la garder sous clé. Vous devez la garder sur votre compte en banque, la laisser là, au chaud, pour pouvoir un jour la remettre entièrement à celui ou celle qui sera devenu, par le lien du mariage, votre époux ou épouse légitime. Mais dans ce texte, Paul ne se contente pas juste de nous livrer un principe. Parce que Paul, il sait très bien, en bon pédagogue qu'il est, en bon pasteur qu'il est, en bon enseignant qu'il est, il sait très bien qu'on n'a pas juste besoin de connaître les règles, mais on a aussi et surtout besoin de les comprendre, pour pouvoir nous les approprier. Alors il va nous expliquer pourquoi les choses sont ainsi. Au verset 4, Paul dit quelque chose d'étrange. Il dit « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. » Pour comprendre ce que Paul est en train de dire dans ce verset 4, il faut évidemment regarder tout ce qu'il vient de dire, mais qu'on n'a pas lu, concernant le corps, dans les versets précédents, notamment à la fin du chapitre 6. Et notamment, dans les derniers versets du chapitre 6, il dit un tas de choses concernant notre corps. Il dit, par exemple, verset 13, « Le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Okay. » Verset 15, il dit, « Vos corps sont les membres de Christ. » Verset 19, il dit, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. » Paul est en train d'insister, finalement, on pourrait regarder toutes ces affirmations en détail, mais en gros, il est en train d'insister sur une idée simple, c'est que notre corps a une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Notre corps a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et il a une grande valeur aux yeux de Dieu parce que notre corps est constitutif de notre personne et parce que notre personne a une grande valeur aux yeux de Dieu. Donc Dieu peut pas accorder de la valeur à la personne Alex sans en même temps accorder de la valeur à mon corps puisque mon corps est constitutif de ma personne. Et on peut pas séparer les deux. Et notre valeur en tant que personne aux yeux de Dieu est telle que malgré notre désobéissance, malgré le fait qu'on aimerait bien nous approprier nous-mêmes notre corps et faire ce qu'on veut avec, malgré le fait qu'on aimerait bien être autonome, qu'on aimerait bien décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes ce qui est bien ou mal, malgré notre rébellion contre Dieu, malgré le fait que nous sommes indifférents à Dieu très souvent, eh bien Dieu lui a quand même voulu s'approcher de nous, tellement nous étions précieux pour lui. Il a voulu s'approcher de nous, il a quand même désiré nous réconcilier avec lui-même, il a quand même voulu nous racheter, nous restaurer, nous réparer, nous rétablir dans notre condition d'êtres humains tel qu'il voulait que nous le soyons au départ. Et il a fait tout ça, bien que nous ne le méritions pas, il l'a fait au prix fort, le prix de son Fils unique, qui est mort pour nos péchés à notre place, et il est mort corporellement, et qui est ressuscité pour notre justification à notre place, et il est ressuscité corporellement. Et il a fait tout ça pour offrir à tous ceux qui se confient en lui non seulement le pardon de leurs péchés, mais encore la promesse, l'assurance de ressusciter un jour, corporellement. Vous voyez que le corps a de la valeur pour Dieu. Il nous assure qu'on va ressusciter corporellement comme Christ lui-même est ressuscité avec un corps et qu'on va vivre éternellement, corps et âme réunis, en la présence glorieuse de Dieu. C'est dire à quel point notre personne, corps et âme, a de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est ça que Paul veut rappeler à ses lecteurs à la fin du chapitre 6. Il nous a rachetés tout entiers au prix fort. Et il compte nous ressusciter tout entiers. Dans une autre épître, Paul prie ainsi au sujet des chrétiens. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ? On est sauvé tout entier si on a placé notre confiance en Jésus. Ce n'est pas juste un salut spirituel, le salut de notre âme. C'est aussi le salut de notre corps qui est destiné à ressusciter glorieux. Et du coup, Paul ajoute à la fin, à la toute fin du chapitre 6, c'est d'ailleurs la dernière chose qu'il dit au verset 20, que notre corps, si nous sommes croyants, si nous avons placé notre confiance en Jésus, eh bien, il ne nous appartient pas. Mais il appartient à Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit au verset 20, vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Paul veut nous faire comprendre que nous ne pouvons pas nous permettre de faire un mauvais usage de quelque chose qui a été racheté à un si grand prix. Vous comprenez ? On ne peut pas, on ne doit pas faire un mauvais usage de quelque chose qui a été racheté à un si grand prix, à savoir notre corps. Alors pour faire un petit parallèle moyen, je suis un amateur de whisky. Mais oui, certains d'entre vous le savez déjà, un amateur de bon whisky, je vous rassure. Hein. Je ne bois pas, d'accord ? Du bon whisky. Mais il y a une chose que je supporte pas, et je m'excuse Tédoué parce que tu en as fait l'expérience toi-même. Tu en as fait l'expérience lors du camp cet été, l'été dernier. C'est quand je sers un excellent whisky à un invité, et que là le gars il me demande, dis-moi, t'aurais pas un peu de coca à mettre dans ton whisky ? Le pire c'est s'il le fait quand j'ai le dos tourné, et là je découvre le crime une fois qu'il a été commis. Hein. Et mon cher invité, j'ai envie de le prendre gentiment par les épaules et lui dire « Mais si seulement tu savais combien ce whisky m'a coûté, tu peux pas te permettre de faire un mauvais usage d'une chose qui a coûté si cher et qui est si bonne. » Bon, je vais prendre un autre exemple. Parfois, on achète des chaussures neuves à nos enfants. Si vous voyez Étienne courir dans l'église, ce soir, vous allez voir, quand il court, il y a des lumières qui s'allument de tous les côtés de ses chaussures. Il est très content parce que Suzanne lui a ramené ses chaussures des États-Unis. Combien de fois on lui dit « Étienne, ces chaussures sont neuves. Elles ont coûté de l'argent. Je sais que tu ne comprends pas peut-être ce que c'est que de l'argent. En tout cas, ça nous est précieux, c'est cette chose qu'on appelle de l'argent. Ces chaussures ne sont pas faites pour servir de frein quand tu fais du vélo. Tu comprends ? De frein sur le goudron. Elles ne sont pas faites pour être raclées par terre. Et c'est vrai que l'espérance de vie des chaussures de notre famille est très très courte pour cette raison. Mais de la même façon, notre corps, votre corps, mon corps, vaut une fortune aux yeux de Dieu. Vous vous rendez compte le prix qu'il a payé pour le racheter ? Et nous ne pouvons pas en faire n'importe quoi. Mais en fait, au fond, on pense que notre corps nous appartient. En réalité, il appartient à Christ. C'est notre personne tout entière qui appartient à Christ. Ce qui veut dire... Bien sûr, je parle en tant que croyant, hein, ce qui veut dire que notre sexualité elle-même doit être placée sous le règne de Christ. Et recevoir le règne de Christ dans ma vie sexuelle, c'est reconnaître que mon corps lui appartient et que la seule personne à qui il a donné le droit de disposer de mon corps, c'est la personne que j'ai épousée. C'est ainsi que Dieu nous le présente dans sa parole. Pour Dieu, la relation sexuelle... C'est un peu la fusion de deux corps en un. C'est un peu le sens de cette expression « devenir une seule chair » avec sa femme ou avec son mari. C'est Dieu qui a inventé ce concept, le concept de la relation sexuelle. Mais ce n'est qu'à des couples mariés qu'il permet de devenir une seule chair. C'est pourquoi Paul dit ceci, verset 4, et tout ce temps on était en train d'essayer de comprendre le sens de ce verset 4, hein. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. C'est pas à nous de discuter. Notre corps ne nous appartient pas. Il a été racheté à grand prix. Et Paul nous explique donc ici que l'usage qu'on fait et que nous faisons de notre corps doit glorifier Dieu. Et il nous explique pourquoi. C'est parce que notre corps a une grande valeur. Aux yeux de Dieu, voilà pourquoi on ne peut pas faire n'importe quoi. Il nous a rachetés tout entier à un très grand prix. Mais avant d'aller plus loin, je me permets quand même de vous poser cette question. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez reçu ce cadeau que vous tend le Christ ressuscité? Est-ce que vous avez accueilli son règne? Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui, parce que vous avez placé votre confiance en Jésus, reconnaissant qu'il a pris sur lui le poids de vos péchés, est-ce que vous reconnaissez dorénavant que votre corps ne vous appartient pas? En fait, votre propre personne ne vous appartient pas, vous avez été racheté, il vous a acquis à grand prix. Est-ce que vous le reconnaissez aujourd'hui à titre personnel? Est-ce que vous reconnaissez, si vous avez placé votre confiance en Jésus, qu'il a fait de vous, de votre corps, le temple de son Saint-Esprit? Et lui-même a déterminé quel était l'usage légitime de votre corps. Est-ce que vous êtes disposé à écouter le propriétaire de votre corps concernant l'usage qu'il vous permet de faire de ce qui lui appartient? Il compte confier votre corps à une seule personne, je me répète, mais c'est important, à la personne que vous allez ou que vous avez épousée. Et Paul explique encore autre chose dans la suite du passage. Revenons au texte. Au verset 5, Paul développe encore son propos sur les relations conjugales et il nous montre que le fait de vivre ensemble, ce n'est pas quelque chose d'anodin, mais c'est un élément constitutif et caractéristique du mariage. C'est un élément tellement important de vivre ensemble que Paul déconseille aux époux de passer trop de temps séparés l'un de l'autre. Pour Paul, on voit bien dans ce qu'il dit là que être marié et ne pas vivre ensemble, ce serait une contradiction. Tout comme l'inverse, vivre ensemble sans être marié. Vous voyez ce que je veux dire? Pour Paul, le foyer, l'unité du foyer, est l'expression géographique, visible, d'une unité conjugale qui a été entérinée par un mariage légitime. Pour lui, les deux vont de pair, vont ensemble, sont inséparables. Quand vous voyez quelqu'un comme moi qui porte une alliance, vous la voyez mon alliance, j'espère qu'elle est bien visible. Quand vous voyez quelqu'un qui porte une alliance, vous en tirez naturellement une conclusion normalement. Cette personne, elle est mariée, elle porte une alliance, elle est mariée. Même si vous ne voyez pas à côté d'elle, à côté de cette personne, son conjoint. Vous en déduisez que cette personne est passée devant le maire. Cette bague, c'est l'expression visible du lien marital et juridique qui unit cette personne que vous voyez à une autre, en l'occurrence moi et Suzanne. Alors dites-moi, est-ce que vous oseriez porter une alliance à l'annulaire de la main gauche sans être marié? Est-ce que vous oseriez faire ça dans notre culture aujourd'hui? Enlève-la tout de suite. Parce que porter une alliance à l'annulaire de la main gauche, selon les conventions de notre société, qui sont souples, je te rassure, ce serait un peu comme un mensonge, enfin peut-être pas un mensonge, mais un peu absurde en tout cas par rapport au message que ça transmet aux gens. Parce que tout le monde sait, sauf quelques exceptions, que la bague portée à l'annulaire de la main gauche signifie le fait d'être marié avec quelqu'un. D'accord? C'est un message qui est adressé aux gens autour de nous. Mais la bague de mariage, bien sûr, ça n'existe pas dans la Bible. Donc rassure-toi, ce n'est pas anti-biblique ce que tu fais. Ça n'existe pas dans la Bible, la bague de mariage. Ce qui existe en revanche dans la Bible, c'est le concept de foyer, ou le concept de maisonnée, la maison d'un tel. Habiter ensemble dans la Bible signifie pour un couple en réalité la même chose que porter une bague de mariage. C'est un signe visible, public, une expression concrète de l'unité maritale qui existe entre deux personnes. Habiter ensemble sans être marié, c'est comme porter une alliance sans être marié. C'est un peu comme porter une alliance sans être marié. Et Paul est en train de dire ici que nous devons honorer, valoriser, protéger ce privilège qui est caractéristique du mariage et qui consiste à habiter ensemble sous le même toit, qui consiste à se réveiller ensemble dans le même lit, qui consiste à s'asseoir ensemble à la même table, pour manger, qui consiste à avoir un même numéro de téléphone fixe, bref, qui consiste à constituer un foyer. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que le mariage soit honoré de tous, qu'il soit honoré de ceux qui sont mariés et qu'il soit honoré de ceux qui ne sont pas mariés, que le mariage soit honoré de tous. Le foyer est l'expression géographique de l'unité maritale. Le fait d'habiter ensemble est destiné à l'épanouissement et à la protection du couple marié. La sexualité et la vie en commun font partie de ces bénédictions qui sont propres au mariage et que Paul nous exhorte à honorer en tant que tels si nous voulons être cohérents avec le règne de Jésus, le règne qu'il compte exercer dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple et dans notre vie de famille. Mais il reste encore une petite chose à dire avant de terminer. Parce que ce passage, il se termine quand même sur un avertissement. Un avertissement destiné aux célibataires. Et je regarde autour de moi, il y en a un paquet dans l'église aujourd'hui, des célibataires. Paul reconnaît que le célibat est une réalité, d'ailleurs j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais le célibat c'est une réalité incontournable pour nous tous pendant au moins les 18 premières années de notre vie. C'est une réalité le célibat, dit-il, mais c'est parfois, il ajoute, c'est parfois une véritable vocation, une vocation permanente destinée à certains, par Dieu. C'est pour ça qu'il dit au premier verset, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, autrement dit, il est bon de rester célibataire toute sa vie, c'est pas une mauvaise chose en soi. Il le dit encore au verset 7, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, sous-entendu célibataire, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. D'accord ? Mais Paul est prompt à préciser qu'il y a pour les célibataires un danger inhérent à leur situation. Ce danger, cette difficulté, c'est celui d'un désir sexuel qui ne peut pas, dans leur situation, trouver de satisfaction légitime. Paul ne dit pas que ce désir est anormal. Il ne dit pas que c'est un mauvais désir. Au contraire, ce qu'il sous-entend, c'est que puisque c'est un bon désir, puisque c'est un désir normal, eh bien, ce désir est légitime, mais la satisfaction de ce désir ne peut se faire que dans un contexte légitime, précis, et par conséquent, les célibataires qui ne sont pas dans ce cadre-là, pour eux, ça peut être un danger, une tentation. Alors, ce qu'on entend dire aujourd'hui, c'est « bah, t'es chrétien, tu reconnais bien que c'est un désir normal ». Puisque c'est un désir normal, c'est donc aussi normal de l'assouvir. Dieu ne nous donnerait pas des désirs qu'on ne pourrait pas assouvir. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Entre adultes consentants, il n'y a pas de mal. Et voilà, imaginez. Imaginez qu'un jour, vous et votre petite amie, vous êtes en ville, en train de vous promener sur les ponts de Lyon, et il se trouve qu'il est 11h30, midi moins quart, vous commencez à avoir très très faim. Et c'est normal d'avoir faim. C'est un bon désir, c'est pas mauvais en soi, c'est normal d'avoir faim. Le problème, c'est que ni vous, ni votre petit ami n'avez d'argent sur vous pour vous payer à manger. Est-ce que cela vous donne par conséquent le droit d'entrer dans un supermarché, de vous servir et de faire votre petit pique-nique dans l'allée centrale? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. On a tous des besoins normaux, naturels, mais la façon de les satisfaire doit répondre à certaines règles. Personne ne nie cela. C'est évident. Et voilà pourquoi Paul explique que le célibat est une situation dangereuse. C'est une situation légitime, oui, mais il est réaliste. Il dit c'est aussi dangereux. Et il faut être conscient de ce danger quand on est célibataire, et on l'a tous été. Il faut qu'on sache se prémunir contre les situations de tentation. Si j'ai très faim et que j'ai pas d'argent sur moi, ce serait assez stupide de ma part d'aller faire une promenade dans le supermarché, on est d'accord ? Enfin, ça va pas m'aider, quoi. Si je suis très amoureux et rempli de désir pour une personne, mais que je ne suis pas prêt à me marier, il faut que je mette un frein à ces sentiments et à ce désir. Il faut que j'évite d'aller me promener au supermarché, si j'ose dire. Il faut que j'évite d'aller me mettre dans des situations de tentation qui seront peut-être insupportables. C'est ce que Paul veut dire quand il dit brûler, sous-entendu brûler de désir, être consumé par le désir. Il vaut mieux se marier plutôt qu'être consumé par le désir. Il vaut mieux aller au supermarché, écrire un chèque, s'acheter du pain et du fromage et ressortir, faire son pique-nique, c'est une façon légitime de satisfaire son désir. Plutôt que d'aller se promener au supermarché et d'être rongé par la faim et de ne pas pouvoir manger ces bonnes choses qu'on voit autour de soi dans les rayons. Alors, voilà, danger, donc évitons, si on est célibataire, les situations de tentation. Paul est très clair sur ce point. à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, parce qu'elles sont, elles sont dans un cas un peu à part, puisqu'elles étaient mariées, mais elles ne le sont pas du fait du décès de leur conjoint, eh bien je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, sous-entendu célibataire, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler, ou que d'être consumé par le désir. Paul est en train d'établir donc très clairement qu'il n'y a que deux options possibles. Soit on est marié, soit on est chaste. Il n'y a rien entre les deux. Soit on est marié, soit on est chaste. Alors il faut conclure, j'ai été un petit peu long. On se posait la question au début de savoir ce qu'il y aurait à objecter si deux adultes fidèles et consentants de sexe opposé qui s'aiment décidaient de consommer leur relation amoureuse en ayant des relations intimes et en s'installant ensemble sous un même toit. Eh bien, dans la Bible, comme on l'a vu ce soir, le Créateur du monde, le Créateur des êtres humains, nous a livré son opinion sur ce point. Ce serait peut-être intéressant et utile de tenir compte de son opinion, ne croyez-vous pas ? Dans ce texte en particulier, 1 Corinthiens 7, qu'on a lu, et vous pourriez lire toute la suite du chapitre, qui est très passionnante en ce qui concerne les relations conjugales, dans ce texte en particulier, on a vu que le mariage était censé être le cadre exclusif des relations conjugales. On a vu, deuxièmement, que l'usage que nous faisions de notre corps était censé glorifier Dieu, parce que notre corps a une grande valeur aux yeux de Dieu, il l'a racheté à grand prix. Troisièmement, on a vu que le foyer était censé être l'expression géographique de l'unité maritale. Et enfin, dernièrement, on a vu que le célibat comportait un danger qui nécessitait, par conséquent, une grande vigilance. Alors ça peut vous paraître contraignant, tout ça. Mais en fait, si Dieu nous explique ses intentions concernant les relations conjugales, sachez-le et soyez-en convaincus. Ce n'est pas pour nous embêter. C'est parce qu'il sait pertinemment ce qui est le meilleur pour notre vie, pour notre couple, pour notre famille. Il sait pertinemment ce que c'est qui nous rendra le plus heureux. Franchement, il est bien placé pour le savoir. Il nous a inventé. Il a inventé ce que c'est que l'homme. Il a inventé ce que c'est que la femme. Il a inventé ce que c'est que la famille, le couple, les relations conjugales, les enfants. Il a inventé tout ça. Notre corps et notre sexualité ont de la valeur pour Dieu. C'est lui qui nous les a donnés et ces dimensions sont constitutives de notre personne. Dieu a voulu nous racheter tout entier, il a voulu nous restaurer tout entier, y compris dans ce domaine. Alors la question de fond en définitive, c'est la question que je posais tout à l'heure, mais à laquelle je voudrais revenir et sur laquelle je voudrais terminer. Quelle est votre relation personnelle à l'œuvre que Jésus a accomplie pour vous racheter et vous restaurer? Est-ce que vous reconnaissez la portée de cette œuvre à la croix, sa mort, sa résurrection? Est-ce que vous avez placé votre confiance en Jésus? Quelle est votre relation? Quelle est votre perception de la croix de Jésus? Et non seulement de la croix ensanglantée, mais aussi du tombeau vide. Là, cette croix où le corps de Jésus a été brisé pour que votre corps soit racheté et sanctifié. Et enfin, quelle est votre relation au trône céleste de Jésus-Christ, là où il est aujourd'hui, là où il siège aujourd'hui? Ce trône de Jésus qui compte exercer son règne bienveillant dans tous les domaines de votre vie. Est-ce que vous accueillez, à bras grands ouverts, ce règne de Jésus et l'autorité qu'il compte déployer, une autorité bienveillante qu'il compte déployer dans votre vie? Et est-ce que vous êtes prêt à transmettre ces choses aussi à vos enfants et à les inciter, à les encourager, à accueillir à leur tour le règne bienveillant de Jésus dans leur vie, sachant que eux aussi, en grandissant, vont être confrontés à cette dimension de leur être. Se confier en Jésus pour le pardon de ses péchés, recevoir son règne dans sa vie, c'est quelque chose qui doit changer notre perspective sur tous les domaines de notre existence. Et c'est pas pour rien que la Bible appelle ça une conversion, un changement radical, un demi-tour. Si quelqu'un est en Christ, dit Paul, il n'est pas une créature amélioré. Il est une nouvelle créature, dit-il. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen.